Et pardonnez-nous pour ces quelques minutes de retard, mais parfois les modérateurs et les modératrices du festival enchaînent table ronde, café littéraire et n'ont pas de battement. Et malgré notre tentative de respecter l'horaire, parfois on a quelques minutes de retard. Voilà. Ces choses étant dites, on a heureusement la possibilité de rattraper ce tout petit retard et on terminera à, allez, on va dire... Ah oui, c'est vrai, j'y pense, c'est le dernier café de la journée, donc pas de problème, on peut rester tranquillement ici jusqu'à 18h sans aucun problème, ou sinon, voilà. En tout cas, bienvenue à vous tous et à vous toutes, plutôt à vous toutes, mais aussi à quelques garçons courageux, passionnés, non, vous verrez, c'est pas parce que la table ronde est une table ronde entièrement féminine que les garçons ne sont pas les bienvenus, et que quelque part, on est beaucoup plus dans une réflexion et un dialogue que dans une hostilité. Tout le monde est rassuré et tout devrait bien se passer. En tout cas, de la femme, de le faire valoir à la femme d'action, c'était une façon de dire que les femmes qui n'existaient pas en littérature il y a quelques siècles, qui existaient encore peu il y a quelques dizaines d'années, se sont de plus en plus imposées dans le monde des lettres, comme dans la société, du moins dans les pays occidentaux, et que dans la littérature de fantasy, elles sont aujourd'hui aussi importantes aux États-Unis que les auteurs, mâles. Et par contre, aujourd'hui, en France, les mêmes phénomènes se produisent, c'est-à-dire qu'on a au moins plus d'un tiers de femmes qui sont aujourd'hui, ça doit être 35% au festival, et je pense que dans quelques années, on fera même plus attention parce qu'on sera à peu près à 50-50 sans qu'on ait besoin de prendre, comme dans d'autres domaines, des mesures de parité. Voilà, la parité va se faire en pratique parce que le talent des filles se vérifie aujourd'hui et vous savez que cette année, le coup de cœur du festival est un coup de cœur féminin. Alors, je voulais en particulier accueillir Déborah Lévy, que je remercie d'être présente, Déborah Lévy, journaliste, et qui travaille au magazine de notre grande région, Nancy Femmes, Metz Femmes et Luxembourg Féminin. Voilà. Et c'est à ce titre-là qu'elle est là. Et on s'est donc mis d'accord pour interroger nos quatre auteurs autour de ces thèmes-là. Et elle va m'aider en leur demandant de répondre sans réfléchir, en quelques mots et de façon franche, sincère et rapide aux questions qu'elle va leur poser pour vous dévoiler un petit peu sur vos façons de voir la vie et la fantasy. Nos quatre auteurs, nous avons tout d'abord Charlotte Bousquet. Charlotte Bousquet qui a obtenu le prix Imaginal des collégiens l'an dernier et qui a obtenu l'année d'avant le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy pour un roman qui s'appelle Arachnae et qui vient d'être, le prix Imaginal, qui vient d'être réédité chez Mnemos en collection de poche. Ensuite, Manon Fargeton, qui est arrivée avec sa première nouvelle professionnelle à 17 ans et demi, félicitations. Son premier roman, elle en avait quoi, 20-21 à peu près ? Voilà. Et ensuite, maintenant, elle est lancée et elle est en train de finir une trilogie dont les deux premiers romans sont parus. Voilà, June. Et puis... Là aussi, prix Imaginal et Grand Prix de l'Imaginaire, Justine Niogré, qui, avec Mordre le bouclier, eh bien le dernier titre, s'est imposée aussi, et son titre précédent, comme une auteure majeure de la jeune fantasy féminine, mais peu importe, française. Et puis, notre invitée étrangère, Gaëlle Carigère, qui ne fait rien comme personne, qui imagine une héroïne victorienne, une héroïne victorienne dont elle donne une petite idée, une héroïne victorienne néanmoins qui ne crache pas sur les hommes, visiblement elle les aime, tout en se laissant pas mener à la baguette. Finalement, les femmes puissantes, les femmes fortes, elles sont dans vos livres et elles sont dans la vie. En tout cas, merci à toutes les quatre d'être à cette table ronde. Déborah, je vais vous laisser la parole. Peut-être que vous allez commencer à cuisiner nos auteurs. Commencez par celles que vous voulez. Elles sont à votre merci.
Alors moi, je me suis dit qu'on allait vous voir sous un air un peu portrait chinois, voilà. Donc, il faut essayer de répondre du tac au tac à 4-5 questions. Vous répondez les unes derrière les autres et vous dites ce à quoi vous pensez. Allez, on commence. Votre principal trait de caractère ?
Libre.
Heureuse.
For me or my character?
You.
For me? What are you? Bossy.
Donc oui, bah, elle mène tout le monde à la baguette. Fallout.
Votre occupation préférée, hormis écrire, hein.
Monter à cheval.
Super original. Voyager.
Eating.
Manger. boire du thé.
Votre mot préféré.
Passion.
Lampadaire.
Favorite word. I like pickle a lot.
C'est cornichon.
Oui. Cornichon. marshmallow.
Pour moins drôle, quel serait votre plus grand malheur?
La pauvre, elle passe toujours en premier.
Ben oui, non, mais c'est horrible. Il y en a plein là. En fait, là, je viens d'avoir plein de visions horribles, alors ça va être super long. En fait, le monde, dans une vingtaine d'années, et plus d'animaux, plus rien, les gens malheureux et tout ça. Non, en fait, c'était pas drôle, la question.
mourir, j'imagine.
I think losing the control of my body when my mind is still active.
Perdre le contrôle de mon corps alors que je suis encore capable de réfléchir.
Il y en a plusieurs, mais un des pires, ça serait quand même revivre mon enfance.
Quels sont vos héros dans la vie réelle? Pas dans vos fictions, dans la vie réelle.
Et est-ce qu'on peut commencer par Justine?
mes héros dans la vie réelle. Tous les gens qui ont existé, qui ont essayé d'être les plus gentils possibles.
I like the queens in ancient Egypt in particular. So Hatshepsut or Nefertiti, Queen Elizabeth, Queen Victoria.
Donc les reines de l'Égypte ancienne ou encore les reines d'Angleterre, Elizabeth ou Victoria.
Je vais pas être super originale, mais c'est super sincère. Ma maman. Oh,
c'est super mimi.
Je dirais toutes les femmes qui ont créé, les musiciennes, artistes, écrivains.
Bon, on va parler voyage un peu. Quelles sont vos destinations préférées?
Mon salon.
C'est un voyage, ça?
Oui, oui, oui.
That I've not been before, or do I like to return to?
To return?
Oh. Well, anywhere where the food is good. Here.
N'importe où il y a à manger, hein, moi, ça me va. Ici.
J'étais en Patagonie en février, et j'y retournerai bien, et l'Islande, sinon.
Et moi, le Maroc et l'Italie.
Bon, on va terminer sur votre état d'esprit, là, maintenant, tout de suite.
Moi, ça va.
Qu'est-ce que vous avez envie de partager?
I'm hungry.
J'ai faim. Bah, tout va bien.
Un peu prise par surprise, mais tout va bien.
C'était le but.
Oui, bah, ça marchait.
Bon, voilà, Stéphanie, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup, Déborah. On avait fait le pari. J'ai vu que visiblement, ça fonctionnait très bien. C'était une façon de donner une impression rassurante à nos amis garçons en leur disant, vous voyez bien, c'est pas revendicatif. On est heureux. On est bien ensemble. Il y a de l'humour. Et finalement, on peut parler de femmes, y compris de femmes puissantes, de femmes difficiles parfois. En tout cas, les héroïnes, je rassure, pas nos auteurs. Et dans un bien-être partagé, un échange absolument serein. En tout cas, merci pour cette petit portrait chinois qui nous a quand même permis de nous amuser, de démarrer avec beaucoup de bonne humeur. Ça va peut-être pas continuer. J'ai commencé par vous, Justine Niogré. Alors, on commence par le titre. Ce que j'aime, c'est Justine Niogré. C'est aussi pour ça qu'elle est là. C'est son incroyable sens du romantisme. Le roman s'appelle Gueule de truie. et continuons dans la bonne humeur générale. Sur la gauche, un cadavre tire la corde d'une cloche énorme. Elle est noire, ombreuse, on imagine le glas. Ça n'a pas l'air lourd malgré la taille de l'objet. Même pas d'effort, l'élan est là, chapitre 1. Gueule de Cruie est déjà venue ici. Il se souvient de la jungle. Elle le fait chier d'avance alors que pour le moment, il n'en est encore qu'à la porte de fer forgé. Les arbres touffus, les lianes, les fougères. Les anciennes cages, ça dépasse de tous les côtés. On se prend les pieds sur des troncs couchés. Des racines sorties du sol, ce n'est pas rangé, ça a tort. Le monde en ruine grise. Le monde est ruine grise. Rue ouverte, bris de glace et poutrelles crevant les murs. Il est punition, il n'a pas à être moussu. Il n'a pas à être emmerdant puisqu'il est mort. Gueule de truie s'y connaît en mort. Et s'il y a bien une chose qu'ils ne font pas, c'est avoir des exigences. Il y a du vert malgré tout partout, mais du bon vert. Des arbres laissés dans leur trou de terre entre deux immeubles, tordus, couverts de charpies, de foulards, de tissus d'écharpes. Les gens font des vœux en les nouant là, des espoirs qu'ils attachent aux branches. Gueule de truie les aimerait presque, ces foulards, s'il en était capable. Ça veut dire que les survivants se cachent pas très loin et qu'on peut les finir en postant un guetteur ou deux. C'est charmant.
Merci.
Pourquoi vous avez l'air plutôt de bonne humeur quand on vous rencontre? Comment ça se fait que vous avez des univers aussi abominables, Justine Niogré?
Bah, le pire, c'est que je ne trouve pas que j'ai des univers abominables. Ils me semblent assez normaux. C'est horrible.
C'est votre vision du monde, sérieusement?
Non, pas du monde, mais des possibilités du monde, oui. Il y a c'est très tolkienite, mais il y a des choses horribles cachées sous les eaux du monde.
C'est ça qui fait que ce n'est pas simplement un goût de l'effet, c'est vraiment ça que vous portez, une inquiétude en vous, finalement, derrière votre sourire avenant et de bonne humeur.
Oui, c'est vraiment pas un effet. Même quand j'essaye d'écrire un texte gentil, calme, il y a toujours ça qui couvre en dessous.
On va essayer de se réconforter avec Charlotte Bousquet, Arachné, le premier volume de l'Archipel des Numinés. Je rappelle, prix Imaginal, comme Justine Niogré. Arachnaé, 15e jour du mois des adieux. Indifférent au poids de son fardeau, l'homme se faufilait entre les venelles insalubres du labyrinthe. C'était là, en ces lieux de misère et de dénuement, que le corps martyrisé de la fillette aurait le plus de chances d'être découvert. Une enquête discrète permettait de remonter à la source sans alterner les hautes sphères de la société. S'il l'avait laissée dans les faubourgs de Vespera ou de Palatine, aux abords de l'académie ou des riches résidences de la noblesse, l'affaire aurait fait scandale et ce serait trop rapidement remonté aux oreilles de son maître. Sitôt prévenu de la découverte du cadavre, celui-ci n'aurait que quelques manœuvres à effectuer pour effacer définitivement toute preuve le liant à sa victime. Cela, il ne pouvait l'accepter. Pourquoi lui était-ce impossible de se rendre aux autorités de la ville, de dénoncer Cesario Scarpia et ses complices pour leurs crimes? Il l'ignorait. Une indéfectible et incompréhensible loyauté l'en empêchait. Il avait voulu essayer pourtant, avait tenté à maintes reprises d'approcher l'un des cinq offices de la milice d'Arachnae. À chaque fois, ses pas l'avaient mené ailleurs, dans une errance sans but, dans un estaminet, entre les jambes d'une putain. C'est charmant aussi, Charlotte Bousquet.
Ben oui, c'est très romantique. J'ai essayé d'être le plus romantique possible.
Là aussi, pourquoi un univers aussi beau, esthétique, mais noir?
Parce que je crois que je suis dans ce que j'écris, j'essaie d'explorer le plus possible l'âme humaine dans ce qu'elle a de mieux et dans ce qu'elle a de pire. Et effectivement, là, il est question de manipulation mentale et de pédophilie. Donc, je pense qu'on atteint à peu près le pire. Enfin, il y a toujours pire, mais là, c'était un bel exemple, en effet.
Est-ce que quand même, en quelques minutes, pour ne pas non plus rester à ce passage, est-ce que vous pouvez, Charlotte Bousquet, situer un petit peu l'univers d'Arachnae?
Oui, alors Arachnae se situe dans un archipel qui est inspiré de l'Italie de la Renaissance. C'est un monde qui est assez dur, qui est très politique, très Médicis. Mais bon, il n'y a pas que des horribles pédophiles, il y a aussi des femmes qui gouvernent, des artistes, des poètes, et donc dans Arachnae on suit en fait le parcours d'une jeune bretteuse qui tente finalement de rester libre et d'échapper à sa destinée. Donc c'est pas si noir que ça quand même, enfin pas trop.
On va maintenant poser une autre question et revenir à Justine Niogré. quand on lit le passage qu'on a lu tout à l'heure, quand on a le titre du roman, Gueule de truie, quand on a un univers sombre comme ça, d'où ça vient finalement ce goût quand même pour les univers extrêmement noirs et néanmoins pour des personnages de femmes, ce n'est pas le cas ici, relativement forts? Pourquoi vous avez fait, alors que vous avez dans vos deux premiers romans quand même des personnages féminins qui portent le livre, pourquoi ici vous avez choisi de mettre en scène un homme? Pour changer?
En fait, c'est assez... Enfin, je ne sais pas, c'est un peu difficile de répondre sans faire prétentieux, mais c'est les personnages qui viennent et Gueule de Truie, il est venu et c'était résolument un garçon. Donc, moi, j'en ai profité en me disant « c'est chouette, ça va changer ». Mais c'est vraiment lui qui est venu comme ça, avec tous ses attributs, c'est le cas de le dire. Je voulais pas dire ça.
On commence très fort, hein. Non, mais c'est important pour casser les dernières illusions sur les femmes modernes. On va maintenant partir ailleurs, dans un univers parallèle, dans un monde britannique, monde victorien, un monde, comme le dit la couverture, avec une histoire de vampires, de loups-garous et d'ombrelles. Gaël Garrigère. Où notre héroïne écoute de bons conseils. « Merde !» dit Lord Macon en voyant qui se tenait devant lui. « Mademoiselle Tarabotti, qu'ai-je donc fait pour mériter une visite si tôt le matin? Je n'ai même pas encore bu ma deuxième tasse de thé. » Il se dressait de toute sa taille à l'entrée de son bureau. Alexia ignora son malheureux choix de salutation et entra dans la pièce en passant devant lui, non sans le frôler ainsi très intimement. L'entrée, contrairement au buste, même corseté, d'Alexia, était plutôt petite. Alexia nota avec embarras que son corps la picotait un peu, ce qui était de toute évidence une réaction à l'état répugnant de son bureau. Il y avait des papiers partout, empilés dans les coins et étalés sur ce qui était peut-être un bureau. C'était difficile à dire sous tout ce désordre. On voyait également des rouleaux de métal gravés et des piles de tubes dont elle suspectait qu'elles en contenaient d'autres. Alexia se demanda pourquoi il avait besoin de prendre des notes sur du métal. Avoir la seule quantité de tubes, ce besoin devait être important. Elle compta au moins 6 tasses et soucoupes sales et une assiette avec les restes d'un gros rôti cru. Mademoiselle Tarabotti était déjà venue une fois ou deux dans le bureau de Lord Macon. Elle l'avait trouvé un petit peu masculin à son goût, mais jamais aussi épouvantable. « Juste ciel !» dit-elle en s'ébrouant pour chasser les picotements. Et elle posa la question qui s'imposait. « Où est le professeur Lial, alors ?» Lord Macon se frotta le visage, puis en désespoir de cause tendit la main vers la théière qu'il vida par le bec. Mademoiselle Tarabotti détourna le regard de cette vision d'horreur. Au fait, qui a dit qu'ils étaient à peine civilisés? Gaël Garrigère, qui sont ces « ils » qui sont à peine civilisés?
I think men. I mean, Lord Macon is a werewolf, but I think Alexia just, you know, it's men.
Bah en fait, c'est les hommes, hein, parce qu'effectivement, Lord Macon, c'est un loup-garou, mais bon, pour Alexia, c'est les hommes en général quand même.
Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu sans âme le premier volume de votre série de romans? Alors, je l'ai dit très vite, ces aventures d'Alexia Tarabotti, pour présenter en deux mots. D'abord, chaque roman est indépendant, même si au fur et à mesure, l'univers progresse. C'est ce qui fait le charme de cette série. Et puis, le personnage d'Alexia Tarabotti, c'est une personnage qui est sans âme dans un monde où normalement les gens en ont. Quel est l'intérêt d'être sans âme? C'est tout simplement que ça réduit les pouvoirs de ces créatures un peu dangereuses que sont vampires, loups-garous et autres sorciers, surtout vampires et loups-garous. Et donc, le fait d'être sans âme, en quelque sorte, protège l'héroïne. Et c'est ça qui, elle, qui n'a a priori aucun talent, en fait, a un réel pouvoir dans ce monde. Elle neutralise les effets de ces créatures mystérieuses, étranges, de ces romans. Alors, là aussi, quand vous vous êtes lancé dans cette série bizarre, dont on ne sait pas trop comment la situer sur les rayons d'une étagère, comme vous l'avez dit vous-même, Gaël Garrigère, est-ce que franchement, vous pensiez avoir le succès américain et planétaire que vous avez avec cette série?
No. First, I thought no publishing house would want to buy it, because they wouldn't know what shelf to put it on. And second, I thought nobody would want to read it, because I thought I was the only one who wanted all this, everything that I put in one book. So I thought the steampunk people wouldn't like the romance, and the romance people wouldn't like the humor, and the humor people wouldn't like the fantasy, and so I thought no one would be happy.
Alors non, je ne pensais vraiment pas avoir ce succès. D'abord, je me disais qu'aucun éditeur ne voudrait acheter le roman parce qu'il ne saurait pas sur quelle étagère le poser dans une librairie. Et ensuite, je me disais que personne n'aurait envie de lire ce que j'avais écrit parce que je pensais être la seule à vouloir tout ce que j'avais pu inclure dans ce premier roman. Je me disais que les gens qui aimaient le steampunk n'aimeraient pas l'aspect romance. Après, je me suis dit que ceux qui aimaient la romance, ils n'aimeraient pas l'humour, que ceux qui aimeraient l'humour n'aimeraient pas le fait que ce soit de la fantaisie, et au final, que personne ne serait content.
Visiblement, ce n'est pas le cas. On va maintenant essayer de trouver une respiration. On est parti du pire au niveau de l'ambiance pour aller vers, j'espère, le doucereux. On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut se méfier de Manon Fargeton. Elle a l'air toute gentille comme ça. Mais bon, quand on la connaît un petit peu, on ne s'y fie pas. Mais pourtant, le roman commence très gentiment. Bon, on est quand même dans un roman pour adolescents. Le souffle est une trilogie dont est une trilogie dont Le souffle est le premier volume. Bah justement, on va voir ce que c'est que Le souffle. Prologue, la sylphide. Recroquevillée sur la plus basse branche de son chêne, une créature se meurt. Ça commence bien. De fines lignes vertes tracent des symboles en spirale sur la peau d'écorce qui recouvre son corps, aussi petit que celui d'un enfant. Elle est la dernière, la toute dernière représentante du peuple des sylphes, les fils du vent. Elle qui a passé son existence à courir les nuages d'un bout à l'autre du globe est à présent réduite à l'insupportable immobilité, prisonnière d'un filet invisible qui se resserre autour de son corps seconde après seconde. Le moindre de ses mouvements déclenche en elle de violents éclairs de douleur, mais il retarde l'instant fatal de sa disparition. Se mouvoir lui est encore plus vital que de respirer. L'immobilité la tue, l'efface de ce monde. Malgré la douleur, la sylphide attend. Elle espère que quelqu'un ou quelque chose passera à sa portée pour qu'elle puisse lui transmettre le souffle et avec lui tous les dons de son peuple, afin de permettre un jour le retour des sylphes. La fille du vent se sent partir, disparaître au-delà de l'invisible, comme des milliers de ses frères avant elle. La brûlure que provoque l'immobilité prolongée dans sa chair d'écorce devient intolérable et personne n'est venu. Il est temps, à présent. Résolue, la sylphide s'apprête à confier ses dons à l'arbre qui l'habite. Elle aurait préféré une forme de vie animale. Tant pis, ce sera l'arbre, son arbre. Des feuilles volent dans toute la clairière, tandis qu'elle rassemble le souffle au creux de sa poitrine et commence à le diriger vers le cœur de l'arbre. Le réseau de liseré vert que parcourt son corps devient brillant, comme si de la lumière filtrait de l'intérieur même de ses entrailles. Ses grands yeux roux s'écarquillent. Soudain, au-dessus du bruit du vent, ses fines oreilles captent une petite voix fluette qui babille d'incompréhensibles paroles. Alors, dans un ultime effort, le corps de la fille du vent s'arc-boute et elle dévie le souffle pour l'envoyer en direction de l'enfant. Elle reste ainsi quelques secondes, tendue à l'extrême, les dernières volutes de vie s'échappant d'elle, en même temps que les dons de son peuple. Puis les lignes vertes s'éteignent, et son corps retombe souplement sur la branche, ses longs cheveux blonds, au reflet de mousse dévalant de ses frêles épaules, jusque sur l'écorce de l'arbre. Elle a accompli sa mission. Le souffle ne quittera pas ce monde, apaisé, la dernière des sylphides pousse un ultime soupir avant de disparaître. C'est joli, c'est romantique, mais ça commence quand même par une mort. Mais quand même, Manon Fargeton, on sent qu'il y a une transmission. Est-ce que chez vous, dans un roman pour adolescents, même si on peut rencontrer la mort, parfois la violence, on verra qu'il y a une poursuite un peu sévère dans le début du roman, est-ce que quand même, il faut aussi toujours cultiver l'espoir pour les jeunes lecteurs ?
Je ne sais pas s'il faut cultiver l'espoir pour les jeunes lecteurs. Je pense qu'il faut cultiver l'espoir tout court. En fait, effectivement, c'est un roman qui est classé jeunesse et je comprends tout à fait pourquoi l'héroïne a 15 ans au début. Il y a une question d'identification. Et en même temps, je pense que j'écris de la même manière pour les plus jeunes et pour les plus grands. Et que les thèmes peuvent être les mêmes. Et il n'y a pas de limite à ce niveau-là.
Charlotte, je vous ai vu approuver de la tête. Je précise que Charlotte Bousquet, même si on parle là et on cite des extraits d'Arachnaé, est aussi une auteure qui s'adresse parfois aux adultes et parfois à la jeunesse. Vous avez l'air d'accord avec Manon Fargeton ?
Non, mais parce que je suis adulte et que je lis Manon aussi. Mais oui, en fait, ça sert à. Enfin, je trouve que ce serait. Comment dire? Ce serait malhonnête de se forcer à ne pas être sincère avec les uns comme avec les autres et de s'interdire des thèmes pour des adolescents sous prétexte qu'ils sont adolescents. Et qu'un bon roman doit. En tout cas, un bon roman destiné, entre guillemets, à la jeunesse doit pouvoir être lisible pour les adultes. Le cas des romans vraiment très adultes, ben, en même temps, on a des lecteurs, je pense que Justine, c'est pareil que moi, on a des lecteurs et des lectrices qui ont 13 ans et qui avalent Gueule de Truie, à mon avis, sans aucun souci, et Arachnaï ne leur pose aucun problème. Donc je pense que c'est vraiment une question de sincérité. Et Manon est quelqu'un de très sincère. Enfin, je crois, non ?
Mm-hmm. Pas j'essaye.
Finalement, c'est pas les jeunes lecteurs qui ont peur des romans, même quand ils sont rudes, mais parfois les parents. On le dira pas. Autre extrait, on revient avec Justine Niogré, Chien du Home. C'est le premier roman de Justine Niogré, c'est avec ce roman qu'on l'a découverte aux Imaginales et qu'on l'a invité. Dis-moi, chien, tu ne crois pas que j'ai tué ton père, si ? Demanda le chevalier sanglier en secouant sa tête toute frangée de flocons. Nage, ne t'en fais pas, je sais trop bien qu'il a assassiné. Tu peux t'en aller en forêt profonde avec moi. S'il te vient du mal, ce ne sera pas de ma main. Ils marchaient tous deux entre les troncs. Le vent faisait craquer les branches alourdies de givre, et le souffle de chien et celui du chevalier tournaient en sortant de leur bouche. Si tu sais qui lui a pris son sang, cherches-tu vengeance ? Aucunement. Pour l'instant, seul me brûle le désir de mon nom. Comme je te l'ai dit, c'est une étrange quête que tu mènes là. Je n'ai jamais rencontré personne qui cherchait ceci. Il n'ajouta plus rien, et chien se tut de même. Ils avaient parlé bas, chacun se soufflant sur les doigts pour les réchauffer, les yeux fouillant dans les buissons secs et noircis à la recherche d'une empreinte de bête. « Hoge, une étrange quête !» souffla le chevalier sanglier entre ses dents, comme pour lui-même. Et puis chien se figea. Elle regardait le sol, immobile, et le chevalier ferma la bouche. Lui qui avait, lui avait juste saisi un froissement perdu entre les troncs, mais chien, elle, entendait un grondement sourd. C'était celui d'un cœur de bête qui s'affole, qui pompe un sang brûlant, qui sait qu'on cherche et qui se cache. La mercenaire sentait la peur et l'angoisse, et elle devinait des yeux qui roulaient, blancs, au creux d'une fourrure agitée de frissons. Chien tendit un doigt vers un tas de branchages pour le montrer au chevalier et avança. Alors la bête jaillit du fourré. C'était une biche, une très jeune biche, pas assez vieille pour avoir su où se cacher, ni avoir sauté hors de portée des armes. Elle bondit à ras sur chien, le nez froissé et la langue tirée par l'angoisse. Chien du Home ne prit même pas la peine de se baisser pour l'éviter et lançant sa hache vers la bête. Son fer vint faucher le musel de la sauvagine en plein bond, là où il est noir et luisant. La bête poussa un cri de douleur, celui d'une femme qui se tient le ventre, glissa et s'effondra sur le flanc, bavant déjà une mousse rouge. Elle ruait avec l'angoisse du désespoir, donnait de furieux coups de sabot dans l'air, et chien lui saisit les deux pattes avant pour l'empêcher de bouger. La femme sentait les secousses de la bête jusque dans son épaule. Elle posa un pied sur la joue dufteuse de la biche pour lui forcer la tête contre le sol et ramassa son arme qui fumait dans la neige. Puis elle la leva et la battit comme un marteau sur le crâne de l'animal qui s'écrasa sur le côté en geignant. Foutre Dieu, lâcha simplement le chevalier, la manche de son arme toujours entre les mains. Chien lui sourit, trop habitué à chasser seul pour ne pas profiter du compliment. L'homme sortit son surin et le lui tendit. Elle plongea la lame dans la veine qui palpitait sous le velours de la gorge de l'animal et plus aucun souffle ne vint déranger la mousse rouge qui lui dégoûtait du museau. Une dernière viande vive pour clore la saison. Voilà ce que vous voulez ma femme, dit le chevalier en glissant sa hache dans son anneau. C'est grâce à toi que j'en pourrais poser devant elle, chien du Home. Je voudrais que tu aies une place d'honneur à ma table ce soir. Mon épouse sera là, tu verras son sourire et tu pourras me dire laquelle des deux biches est la plus gracieuse de ma femme. Ou de celle-ci, c'est charmant. Vous avez vu quand même dans ce passage, alors d'abord la violence par rapport à l'animal, hein, les carnivores, dans ce monde de fantasy moyenâgeuse, la question de la viande ne pose aucun problème à personne. On n'est pas aujourd'hui dans des débats sur végétarien ou pas. Et dans ce monde de fantasy brutale, j'imagine que comme moi au début, quand vous voyez le personnage arriver, vous ne réalisez pas tout de suite, il appelait chien, chien du Home, que c'est une femme. Pourquoi vous avez trouvé un tel nom, un tel surnom à une héroïne féminine qui est en même temps une tueuse et une mercenaire ?
Oh, c'est compliqué parce que les deux romans tournent autour justement de son nom. Je pense que ça, enfin, de façon symbolique, ça rejoint toute l'armure qu'elle s'est mise sur elle-même, parce que à un moment dans sa vie, ça a dû être une petite fille tout à fait jolie et charmante, et elle l'a pas perdue, mais elle a enfoui tout ça. Et je pense que voilà, le souvenir de son nom, elle l'a aussi enfoui sous le nom de Chien du Home.
Quand vous faites des personnages, on a vu Gueule d'autrui, un personnage masculin, Chien du Home, personnage féminin, finalement pour vous, ça n'a pas beaucoup d'importance ?
Aucune, vraiment.
Donc vos héros sont sexués par hasard quelque part ?
Par le destin, mais jamais par eux-mêmes, effectivement. Les personnages secondaires sont des fois sexués, mais mes héros ne le sont pas du tout, enfin je pense.
Arachnaï, 16e jour du mois des adieux, on revient à vous, Charlotte Bousquet. Je suis désespérée, s'écria Julia, affolée, en pénétrant dans le petit boudoir où l'attendait impassible et sereine les moires d'Arachnaï. La seule idée du départ d'Artemisia me désole, elle est si jeune. Mais elle sera loin lorsque son frère succombera contre Alakésis. Ainsi, elle ne pourra deviner ce qui se cache derrière son décès. N'oubliez pas que votre Benjamin possède de puissants dons de prophétesse, ma chère. La perte de Tiberio pourrait encore les exacerber. Artemisia est trop jeune pour comprendre pleinement les raisons du sacrifice de son frère. Il n'y a pas que ça, gémit Julia. Alessandrina, qui en voudrait son existence, qui souhaite sa mort. Ne pouvez-vous pas voir les dangers qui la guettent ? Ne pouvez-vous découvrir le nom de ses ennemis ? Atropos et la tisseuse échangèrent un bref regard. Nous sommes puissantes, certes, mais nous ne percevons que des possibles. On parlait de femmes puissantes dans la préparation de ce festival. Femmes effrayées et les moires des femmes puissantes et brutales. C'est un monde toute brutalité où les femmes sont soit elles-mêmes brutales, soit victimes.
Il ne faut peut-être pas exagérer tout de même. Je dirais que les femmes puissantes que sont les moires, en fait, en vous écoutant, je me disais que c'est quand même cette trilogie, c'est leur déchéance. Et deux femmes victimes, je n'en vois pas beaucoup. En fait, Julia est quand même pas complètement... elle est complètement idiote, mais elle l'a choisie. Et en fait, c'est essentiellement des jeux de manipulation et de savoir jusqu'où vous êtes prêts pour être vous-même et pour être libre. Les moires, elles, sont prêtes à peu près à tout pour garder leur pouvoir, que ce soit à Arachnaï ou que ce soit dans les autres royaumes qui sont décrits. Évidemment, ce qui les intéresse en maintenant Artemisia à l'écart, c'est qu'une jeune fille qui est au moins déjà aussi intelligente qu'elle et qui possède les mêmes pouvoirs soit capable ou non de les supplanter et de devenir reine. Après, les héroïnes sont, je dirais, surtout en quête de liberté. Et victimes, éventuellement, elles peuvent choisir de l'être.
Est-ce que vous partagez le point de vue de Charlotte Bousquet, Manon Fergeton ?
Oui, mais j'ai un peu de mal avec la fin. Victime, choisir de l'être. Oui, dans Arachnaï. Mais moi, généralement, mes héroïnes, si elles sont victimes par moment, choisissent de ne pas l'être, en général. Choisissent de ne plus l'être. Voilà.
Non, en fait, ce que je trouve, c'est que parfois, c'est extrêmement confortable de ne pas voir et de choisir de ne pas voir. C'était en ça que je voulais dire, voilà. C'est que être une abrutie, ça peut aussi se choisir. Parce que c'est extrêmement confortable.
Ça s'appelle une autruche.
Et donc pas des femmes puissantes, mais des femmes libres, pour répondre au portrait chinois que vous aviez fait tout à l'heure. Yeah. Alexia Tarabotti. Mademoiselle Tarabotti n'était pas un poids léger. Elle ne cachait pas le fait qu'elle aimait manger plutôt régulièrement et de la nourriture qu'on pouvait en général qualifier de délicieuse. Elle conservait sa ligne en faisant de l'exercice. Pas un régime sévère, mais Lord Mâcon, car c'était lui qui se tortillait, était très fort et aurait dû la déplacer facilement. Au lieu de quoi, il semblait avoir du mal. Cela prenait un temps excessif pour un homme au physique aussi imposant, même si le contact avec un corps paranaturel annulait sa force surnaturelle. De manière générale, Lord Macon appréciait les femmes voluptueuses. Il aimait qu'il y ait un peu de chair sur une forme féminine, un peu plus à quoi se raccrocher et à mordre. Le ton de sa voix, aussi agacé qu'il fût, était démenti par la douceur de ses grandes mains, tandis qu'il se servait du prétexte d'avoir éloigné les courbes généreuses d'Alexia de sa propre personne pour vérifier qu'elle était indemne. « Êtes-vous blessée, mademoiselle Tarabotti ? Ailleurs que dans ma dignité, voulez-vous dire ?» Alexia soupçonnait Lord Macon de l'avoir un peu plus manipulé que ne l'exigeaient les circonstances, mais elle appréciait la sensation en secret. Après tout, quand une vieille fille au rencard depuis aussi longtemps qu'elle, avait-elle l'occasion d'être manutentionnée par un comte aussi titré que Lord Macon ? Elle avait tout intérêt à tirer avantage de la situation. Elle sourit de la propre audace et se demanda qui se servait de qui. Le comte finit par la soulever et l'asseoir. Puis il roula sur lui-même pour se dégager et se leva en la hissant d'un bond sur ses pieds, sans cérémonie. « Lord Macon, dit mademoiselle Tarabotti, comment se fait-il que lorsque vous êtes là, je finis toujours à plat ventre dans une position inconvenante ?» Oui, Gail Carrigère, dites-nous pourquoi Alexia Tarabotti est toujours, quand Lord Macon est là, dans une position inconvenante.
I don't know if this will translate well, but in the television show Farscape, did you ever get Farscape here? Yes, yay! A few people. The two main actors, they used to call it proximity alert. Do you get it?
Yeah, I get it.
Yes, and so it's a fun way for a writer to get characters that don't want to like each other to like each other by literally physically throwing them at each other.
Alors je sais pas trop si ça va bien se traduire, mais je sais pas si vous connaissez Farscape. Donc il y avait deux personnages principaux et ils avaient ce qu'on appelait une alerte de proximité. Alors en fait c'est une façon rigolote quand on est écrivain de faire en sorte que deux personnages qui ne veulent pas s'apprécier finissent par s'apprécier parce qu'en gros ils finissent toujours physiquement en tout cas en contact.
C'est un univers victorien, Gail Carrigère, un petit peu particulier quand même que l'univers de votre héroïne. Comment on pourrait dire ça, un univers victorien contrarié ?
Est-ce qu'il y avait une question ? Pardon.
Tout va bien. Nous avons rejoint la rivière. On retourne avec June. Nous avons rejoint la rivière qui traverse la ville et file vers le nord-ouest en direction de la forêt. C'est seulement lorsque nous avons atteint l'abri des premiers arbres que nous nous sommes permis de ralentir. Essoufflés par notre longue course, nous avons enlevé nos manteaux pour mieux respirer et nous nous sommes enfoncés plus avant dans le sous-bois jusqu'à trouver cette petite niche creusée par l'érosion dans un gros rocher posé au milieu des arbres, niche sous laquelle nous nous sommes aussitôt assis. J'ai court-circuité les pensées qui généraient mon cerveau à toute allure et sans échanger un mot, appuyés l'un contre l'autre, Loki et moi, nous nous sommes assoupis. Des aboiements de chiens nous ont réveillés quelques heures plus tard et dans la lumière grise de l'aube filtrée par les branchages au-dessus de nos têtes, nous nous sommes remis en route en longeant le cours ondulant de la rivière sans prendre le temps de nous remettre de l'étonnement d'être encore en vie après avoir passé une nuit dehors sans aucune protection. Les bêtes que nous entendons aboyer derrière nous font-elles partie d'une meute de chiens sauvages ? Sont-elles dirigées par des rôdeurs ou bien par les hommes du conseiller ? Impossible de le savoir, mais aucune de ces hypothèses n'est rassurante. Nous progressons rapidement en silence. Je ne parviens plus à arrêter de penser à ce que je laisse derrière moi. Sac de nœuds dans mon ventre, je n'ai même pas dit au revoir à Mel. Il va se demander ce qui se passe, me chercher, il ne comprendra pas. Mel, mon Mel, son visage flotte devant moi, flou comme un reflet à la surface troublée d'une mare. J'aimerais glisser mes mains dans ses mèches brunes et la tirer contre moi, mais l'image s'évapore dès que j'esquisse le geste d'avancer les doigts. Je n'ai pas non plus fait mes adieux aux filles, Nanou leur expliquera. Dire que je devais retourner à l'école dans deux petites semaines. Peut-être qu'en compagnie de Gwen, Maya, Bénédicte, Dan et Mel, l'année aurait été moins pénible que les précédentes. La perspective de revoir les autres élèves ne me réjouissait pas forcément, mais savoir que je ne les retrouverais pas de sitôt est plus inquiétant encore. Une bifurcation imprévue, quelque chose que je ne pouvais pas anticiper et qui vient bouleverser le semblant de calme qui régnait dans ma vie. Mais je reviendrai vite en ville, dès que cette histoire avec le conseiller sera réglée, qu'il se sera calmé, alors je reviendrai. C'est l'affaire de quelques semaines, tout au plus. Elle se fait bien sûr des illusions. Le personnage de cette jeune femme, qui pour dire vite est hébergée dans une maison, comment on appelle ça à l'époque ?
Ben un bordel.
Un bordel. J'aurais dit maison de tolérance, mais bon, les jeunes, vraiment aujourd'hui, ne respectent plus rien. Un bordel. Et donc, dans cette maison, mais des filles très sympas, elles ont protégé June, en tout cas, avec June, c'est clair. Et elle a été victime, en fait, d'une tentative d'agression d'un homme de
la part d'un des clients.
Voilà, voilà. Et c'est ce qui l'oblige à fuir. Et ouais, quelque part, c'est ce qui va, quelque part, la lancer dans toute une série d'aventures vers laquelle on va être entraîné avec vous et avec votre héroïne.
Bah oui, évidemment, elle aurait envie de rentrer vite, mais ça n'arrivera pas. Désolée, je spoil un peu, mais vraiment, ça n'arrivera pas. Ça arrivera peut-être, mais bien plus tard. Et oui, j'avais besoin de ce cocon du bordel, effectivement, mais d'un cocon inquiétant et qui soit en danger pour elle, pour avoir ce moment de bascule, justement, vers le... Bah, dans ce monde où on ne voyage jamais, je vais devoir voyager, je vais devoir sortir des remparts et je vais devoir aller affronter ma vie telle qu'elle s'offre à moi et pas telle que j'aurais voulu qu'elle s'offre à moi.
Et donc, on entre dans le schéma d'une quête initiatique.
Bah oui.
C'est bien pour suivre l'héroïne.
Oui.
Une quête initiatique, ça va. C'est un schéma classique et finalement permet quand même des rebondissements et à la construction d'un personnage et à une maturité, puisqu'on est avec une adolescente qui, même si le lieu était en effet peut-être pas l'idéal pour l'éducation d'une jeune fille, était quand même quelque part à la fois inquiétant et protecteur. Au moins, ouais. On connaît.
Oui, oui, bah c'était le connu et là, elle plonge vers l'inconnu. Mais c'est... La quête initiatique, c'est juste une métaphore de ce qu'on a tous à vivre. C'est juste un moyen de... C'est un moyen qu'utilise la fantasy et beaucoup d'autres romans, mais beaucoup en fantasy, pour parler de ce passage de l'adolescence à l'âge adulte et de cette quête de qui on est, au fond.
Charlotte ?
Quoi, moi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ?
Quand on hoche la tête, c'est le risque, on approuve, on est obligé d'apporter quelque chose. Donc, et
en fait,
donc, de
donc à partir de maintenant, je vais faire comme ça.
Ah, vous n'êtes pas d'accord ?
Voilà, donc une quête initiatique, bien sûr qu'on est. Mais je dirais que, en fait, même adulte, on est toujours en perpétuelle quête de soi et quête de devenir quelque chose. Quand on s'arrête de chercher, quand on s'arrête de douter, on est mort. C'est un petit peu ça aussi, non ? Et je vous renvoie la balle, du coup.
Question, en tout cas, moi, que je vais vous poser, parce que c'est pour le moment, c'est moi qui pose des questions.
Bon, d'accord.
Une question que je vais vous poser. Finalement... Quand vous écrivez des personnages, est-ce que vous pensez, Charlotte Bousquet, que vous écrivez très différemment de ce que pourrait faire un homme ou que finalement un écrivain, une écrivaine, quelle importance ?
Je ne sais pas. Je me suis pour la première fois confrontée à un héros masculin il y a à peu près 3 semaines. C'est la première fois que j'ai un héros, enfin pas une fille, voilà, avec, comme disait Justine, avec des vrais des attributs. Et en fait, c'est une romance. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que oui, de toute façon, je suis une femme et j'écris, je ne sais pas si j'écrirais la même chose si j'étais un homme, mais je suis enfin contente d'avoir réussi à remplir un contrat ou un défi que vous m'aviez lancé aussi l'année dernière, vous n'arrêtez pas de me lancer des défis, qui était d'avoir un héros masculin. Donc voilà, un héros de romance, c'est possible pour moi. Je ne sais pas si ça répond beaucoup à votre question, mais en tout cas... Voilà, c'est tout la réponse que je peux apporter.
Votre premier héros masculin, il est sympa ou il est odieux ?
C'est un peu une lavette. Mais non, mais c'est horrible, je suis désolée, mais c'est pas la faute.
Votre mari vit tout ça très bien, votre livre au roman ?
Mais oui, il n'y a pas de problème, c'est un de mes premiers lecteurs. Mais non, mais moi... Mais j'ai un mari absolument exceptionnel, c'est un extraterrestre, je crois, donc voilà. Mais effectivement, Armando est quelqu'un de très... il s'appelle Armando, ça se passe en Italie, il est gentil, il est mignonnet, il est jamais sorti de chez lui. Bon, en gros, il est... mais il est style, il est super beau, il ressemble un peu à Tadzio pour les gens qui ont vu Mort à Venise, donc c'est un peu un fantasme sur pattes. Il est d'une famille assez... une vieille famille florentine. Il veut faire du droit, des études, études d'histoire de l'art et voilà, et quand ses copains s'éclatent, font la fête, ce genre de choses, bah lui il travaille et un jour il tombe amoureux d'une fille qui
elle est une femme extrêmement... D'ailleurs, je dis femme, c'est un peu bizarre. Volontaire, qui, au contraire, brûle la chandelle par les deux bouts, qui a un passif assez difficile. Et donc, ce héros, il n'a rien vécu. L'histoire, bizarrement, se passe aussi également... Enfin, s'écrit à la première personne. Donc, c'est très, très, c'est très bizarre. Et voilà, il se plante et il sème le malheur autour de lui, mais sans l'avoir vraiment voulu. Il s'en rend compte un peu trop tard. Donc, c'est un peu une lopette. Et je suis désolée. Voilà. Et sinon, il aime les chevaux.
Et vous, Manon Fargeton, et vous, comment vous voyez les choses? Peu importe, un personnage masculin, un personnage féminin, vous êtes aussi à l'aise dans les deux?
Moi, j'aime beaucoup les deux, et j'aime beaucoup écrire des personnages masculins. En fait, c'est juste des êtres humains. Et du coup...
C'est une révélation. Ce sont aussi des êtres humains.
Révélation. Ce sont aussi des êtres humains. L'autre côté... Voilà. Et je sais pas si ça change quelque chose d'être une fille et d'écrire des personnages masculins ou d'être un mec et d'écrire des personnages féminins. Je sais pas si ça... Moi, en fait, j'ai lu des très beaux livres, j'ai lu des très beaux livres écrits par des hommes où c'était des personnages féminins. Et je crois qu'il y a une sensibilité l'empathie permet ça, en fait. Le fait d'avoir de l'empathie pour les uns ou pour les autres dans la vie en général permet de se mettre dans la peau d'un garçon ou d'une fille sans que ça pose question. Enfin, moi, ça me pose pas spécialement question, en fait.
Quant à vous, Gaëlle Carrigère, les hommes, vous préférez les loups-garous, d'après ce que j'ai compris. Votre héroïne, bien sûr.
Yes. Yes. Do I get to answer the question about writing dudes?
Mais parlez-nous de votre amour des loups-garous, Gaëlle Carrigère.
Oh, goodness sake. I don't want to talk about men.
Je veux pas parler des hommes, moi.
What do I love about werewolves? I like that they're hairy. I like that they have to get naked a lot. Which makes them intrinsically more funny than vampires by default. That's why I tend to make them my main romantic interests. I don't find vampires sexy. I think the age difference is very creepy. So, yeah.
Oui, alors moi j'aime bien les loups-garous principalement parce qu'ils sont poilus et puis parce qu'ils sont souvent tout nus. Et puis du coup ils sont plus drôles que les vampires. C'est pour ça qu'en général tout ce qui est romance, ça concerne plutôt les loups-garous. Et puis pour les vampires, vaut bien le dire, moi je comprends pas pourquoi on les trouve sexy. Un vampire, ça peut pas être sexy. Déjà, la différence d'âge, c'est flippant. Moi j'aime pas.
Et vous, Justine Niogret, à la question que j'ai posée à l'ensemble de notre panel, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, peu importe aussi, vous l'aviez déjà un peu dit tout à l'heure, personnel masculin, féminin.
Oui, enfin, même à un niveau personnel, je me suis jamais sentie très très genrée. Donc pour moi, c'est vraiment pas un souci ou c'est même pas un questionnement que j'ai. Le personnage vient comme il est et voilà. Enfin, je sais pas. C'est pas très. Je peux pas vraiment répondre à cette question parce que ça m'est naturel, en fait. Voilà, les personnages viennent comme ils viennent.
Ça m'a intéressé parce que dans une fiche où il y a un peu d'humour, là aussi, elle se présente en disant son kiff, c'est de tirer l'arbalète. Évidemment, ça donne un certain profil. Et en plus, c'est vrai. Mais plus sérieusement, c'est vrai ce qu'elle vient de dire. Ce qui me frappe, moi, beaucoup dans vos romans, Justine Niogret, c'est justement, comme vous avez dit, qu'ils sont peu genrés. C'est des termes un peu nouveaux parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ça fait longtemps que ces questions ne posent même plus débat. Mais... c'est vrai que quand je lis un de vos personnages, masculin ou féminin, je ne vois pas trop la différence. Et ça me paraît assez frappant. C'est moins vrai dans le cas de nos trois autres auteurs. Et c'est ni un reproche ni pour l'une ni pour les autres. Mais c'est assez frappant dans votre littérature. D'ailleurs, souvent, on ne sait pas trop au début si c'est un personnage masculin ou féminin. S'il n'y a pas un prénom typé, on ne s'en rend pas compte. Donc chien du home, on ne s'en rend pas compte au début. Et ça me paraît frappant et intéressant, parce que ce n'est pas si fréquent dans les littératures françaises.
Mais justement, c'est toujours super intéressant ce que vous dites sur tous les livres que vous avez lus, déjà. Et en ce moment, je suis sur un projet avec des gladiateurs, et il y a un personnage qui est tellement crade, en fait, qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, et les gens l'appellent poubelle.
Vous voyez, je savais que ça allait être un grand café romantique. Oui. On doit malheureusement, on serait resté un bon moment avec nos invités, respecter l'horaire parce qu'il y a encore, j'étais un peu rapide, un café littéraire après dans cette salle. En tout cas, c'est un immense merci à nos quatre invités. Un grand merci aussi à vous, Déborah Lévy, qui avait démarré avec beaucoup d'humour et un ton original ce café littéraire. Maintenant, c'est pour vous l'occasion de retrouver nos auteurs. June, le souffle et le roman suivant de Manon Fargeton. Arachnae, le roman de Charlotte Bousquet et plein d'autres. Justine Niogré, Mordre le bouclier, Chien du Homme. Et puis aussi la série à partir de Sans âme et tous les autres, les romans de Gaëlle Carigère. Merci à tous et à toutes.
Merci.